nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On va partir en direction du Brésil dans quelques instants, avec une émission consacrée à une très ancienne pratique rituelle, le candomblé. Le candomblé, c'est une religion venue d'Afrique et pratiquée au Brésil et dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, dans les communautés afro-descendantes. Une pratique rituelle basée sur la transe, les sorts et la possession, qui était maintenue pendant très longtemps en marge de la société brésilienne. C'est d'ailleurs ce qui donne à l'émission que vous allez entendre toute sa valeur documentaire, puisque cette émission a été enregistrée dans un centre de cérémonie de la banlieue de Rio de Janeiro. Nous sommes en 1982, dans les dernières années de la dictature militaire, une période de grande violence politique et sociale, ce qui explique peut-être, d'ailleurs, la survivance de ces rites traditionnels. Par la médiation des dieux, c'est peut-être rien moins que l'équilibre d'une société qui se joue.
La matinée des autres. La révélation du Brésil. Une émission proposée par Olivier Germain Thomas et André Mathieu. Avec la participation de Gisèle Cossard, maire de Saint, et Naïm Katan et René Depestre, écrivains. Mixage, Monique Pratt.
Notre époque grandit sous le signe des rencontres de civilisations. Le modèle occidental un peu partout, souvent pour le pire plus que pour le meilleur, et maintenant certaines valeurs orientales qui prennent racine en Occident, comme par exemple le yoga, la méditation hindoue, le bouddhisme zen ou le bouddhisme tibétain qui a été chassé de ses propres terres. La civilisation du XXIe siècle sera certainement profondément marquée par ce va-et-vient. Plus aucune tradition ne pourra vivre en vase clos. Et il y a un pays au monde où ces rencontres s'incarnent encore plus puissamment qu'ailleurs. Situé en Amérique, il a été peuplé par l'Europe et par l'Afrique, il parle une langue européenne, et chez lui se trouvent les sociétés les plus archaïques de la planète, les Indiens d'Amazonie, et les villes les plus modernes, São Paulo, Rio de Janeiro par exemple. Le Brésil, c'est lui, ne se contente pas d'accueillir les extrêmes, il les brasse. Et de ce brassage naît une synthèse qui fascine. Pour saisir ce que le Brésil révèle et comment il peut changer le destin de ceux qu'il touche, trois expériences. Gisèle Cossard est française. Elle est devenue, fée unique, mère de Saint, dans un rituel venu du fond de l'Afrique. Naïm Katan, lui, est un juif irakien, écrivain francophone vivant au Canada. Il est à lui seul tout un dialogue. Et il a reçu à sa manière la révélation du Brésil comme quelqu'un pénétré de culture arabe et qui en a retrouvé un signe, mais métamorphosé. René Depestre, lui, est écrivain haïtien. Il est un presque voisin, par l'américanité de ses Antilles natales et l'africanité de ses origines. Mais un voisin peut aussi subir le choc et en être transformé. Ces trois expériences, radicalement différentes, manifestent une réalité d'une force inouïe, celle du Brésil d'aujourd'hui. Rio de Janeiro, une autoroute urbaine, les bretelles inextricables à l'image même de cette ville qui est un mélange inouï de races, une sorte de kaléidoscope de visages. Puis nous quittons les beaux quartiers et voici la zone des hôtels de rendez-vous. Puis l'autoroute traverse les quartiers délabrés de la banlieue, les favelas, le royaume des pauvres. La nuit tombe. Surtout ne pas s'arrêter, nous supplie notre guide brésilienne. Effectivement, après la douceur des plages, c'est maintenant la violence du ghetto des rejetés. Puis les maisons s'espacent, la nature devient plus sauvage. Une heure après, nous quittons l'autoroute et tout de suite, la route est d'un autre âge, beaucoup plus préparée à recevoir des charrettes que les voitures. Nous avançons très lentement. Dehors, c'est la grande nuit tropicale qui déchire le ciel jusqu'aux étoiles. Végétation généreuse, quelques maisons. Nouveau changement de route, c'est maintenant une sorte de chemin à peine carrossable. Un mur, une porte, c'est là. C'est un terreiro, en français on dirait un terrier. C'est un centre de candomblé, où à période régulière, des rites magiques et précis font revenir les dieux africains de la mémoire enfouie du peuple noir du Brésil. Et pendant toute la nuit, nous allons assister à ce candomblé dans une charmante petite cour recouverte d'une treille. Toute la nuit, la danse sacrée sera conduite par la mère des saints, celle qui est l'âme de la cérémonie. Mais le phénomène le plus extraordinaire, c'est que cette mère des saints, qui initie les Noirs et les Métis du Brésil au rite de la plus profonde Afrique, est une Française, Gisèle Cossard, qui a occupé des postes importants dans l'administration française et qui maintenant est là, dans la danse, avec sa grande robe et son fichu traditionnel. Il s'agit chez elle de la rencontre unique, de la connaissance et de l'expérience d'un rituel qui, à l'origine, lui était complètement étranger. Nous assistons à toute la cérémonie pendant toute la nuit, puis le surlendemain, nous revenons voir Gisèle Cossard, qui nous donne d'abord les clés du rituel, nous faisant entrer en quelque sorte dans les coulisses du candomblé, avant de nous livrer le sens de son itinéraire personnel. Comment elle en est arrivée là ? Nous sommes donc avec Gisèle Cossard dans son terreiro, ce centre magique d'initiation.
Le centre est un lieu de culte où l'on honore les divinités africaines qui sont nombreuses et qui se trouvent réunies, contrairement à la tradition africaine en Afrique, qui se trouvent réunies ici en beaucoup plus grand nombre que de l'autre côté de la mer. Il y a eu accumulation de divinités de plusieurs régions différentes par suite du mélange d'ethnies venues en esclavage ici. Si bien que on trouve une tradition du Dahomey avec des divinités de la région de Savalou, Kétou, et d'autres par contre qui sont de Nigeria avec des divinités qui viennent d'Oshogbo, qui viennent de Ilesha, qui viennent de la région de Lagos ou d'Abeokuta. Ça se déroule sur plusieurs jours. Il y a d'abord un jour où l'on fait des sacrifices à Échou. Échou est une divinité un peu inférieure qui est considérée comme l'esclave des autres et qui est dangereuse, qu'il faut se ménager. à laquelle on fait des offrandes pour qu'elle protège la maison et pour qu'elle empêche toutes les mauvaises influences qui peuvent venir de l'extérieur de perturber le déroulement des cérémonies. Bon, première étape, donc, les offrandes à Yeshu. Généralement, ici, nous faisons aussi des offrandes aux âmes, aux ancêtres immédiats. Le deuxième jour. Et puis, le matin même de la fête publique, il y a des offrandes à la divinité qui est honorée ce jour-là et qui peut être différente. Ce peut être la divinité de la mère de saint, c'est-à-dire du chef du couvent, ou bien ça peut être les divinités des initiés qui, à période régulière, font des offrandes. Ou bien encore, ça peut être une fête qui est très appréciée dans le monde du candomblé, c'est la fête de la sortie, la première sortie des initiés, au moment où la divinité incorporée par la transe va crier son nom, va donner son nom au public. Et ça, c'est une fête qui est très, très appréciée. Bon, la fête à laquelle vous avez assisté, c'est la fête de Yinsin, qui est la divinité de la foudre, et qui est le deuxième orisha de la mère de saint, ici. Je suis de Yemenja, mais mon deuxième orisha, c'est Yinsin. C'est assez rare de voir dans la même personne deux divinités féminines. Généralement, les gens ont une divinité masculine et une divinité féminine, l'une ou l'autre étant la première. En fait, les divinités correspondent au somatotype de la personne. Elles sont le reflet, ou plutôt la personne est le reflet de la divinité. Son type physique, son caractère, ses goûts, c'est la manière de se comporter, tout permet de déterminer quelle est la divinité principale de la personne.
Et qui détermine ce choix ?
Eh bien, ce choix est déterminé par la mère de saint, d'après l'apparence des gens, d'une part, mais aussi par le jeu de divination, par les indications qui peuvent être données, par la personne elle-même qui entre en transe, n'est-ce pas ? Il y a toute une série d'épreuves qui permettent de déterminer, avant une initiation, quelle est la divinité maîtresse de la tête de la personne. C'est une sorte d'ange gardien, n'est-ce pas ?
Et comprendre quelle est sa divinité, c'est un processus qui est assez progressif.
Non, on peut très bien le savoir dès son plus jeune âge. Il y a des enfants dont on sait tout de suite quelle est la divinité protectrice, très rapidement en tout cas.
Alors dans votre cas, vous, donc, vous avez deux divinités féminines.
Une qui est Yemenja, divinité de l'eau, divinité liée à la mer, et l'autre qui est Oya ou Yinsin, c'est la même chose, ce sont deux noms différents, mais c'est la même divinité, qui est une divinité du feu, une divinité assez agitée, assez violente, qui défend le monde des vivants contre les âmes, contre les morts, qui est toujours invoqué en cas de peur de l'au-delà.
C'était donc la fête d'une de vos divinités, Yassin.
Oui, la cérémonie a commencé par les sacrifices le matin à l'aube. On a offert une chèvre, quatre poules, une canne, une pintade, un pigeon et ces petits beignets que vous avez pu manger pendant la cérémonie, qui sont distribués pendant la fête. Les fêtes dans tous les pays du monde, ça se termine toujours par des agapes. Il y a une partie des animaux est préparée pour être offerte à la divinité. Il y a toute une série de plats rituels. Et il y a ensuite l'autre partie des animaux qui est préparée pour la fête et qui est distribué après toute la partie rituelle. C'est très important, il faut qu'il y ait abondance de nourriture, abondance de boissons, parce qu'on se réjouit de la présence des divinités, c'est très très important. Alors, après la préparation de ces nourritures, on se prépare donc à la fête publique, après les offrandes posées au pied des vases sacrés, On se prépare à la fête publique qui amène du monde de l'extérieur, peut amener aussi d'autres initiés, d'autres couvents qui viennent et qui, dans la mesure où ils sont amis de la maison, participent, entrent dans la ronde et dansent aussi avec les autres. On danse donc pour toute une série de divinités et puis on appelle la divinité, on fait entrer la personne qui fait des offrandes en transe. Et à ce moment-là, c'est la divinité incorporée qui fait le spectacle, n'est-ce pas ? La première sortie, une fois qu'elle est rentrée en transe, on l'habille avec des vêtements rituels, on l'habille de blanc et elle va danser pour la divinité la plus ancienne qui est Oshala. C'est une danse qui rappelle une légende qui dit qu'Oshala avait été à la recherche de son fils. Il ne l'avait pas trouvé et il avait vu un cheval dans un champ de maïs. Le cheval détruisait la récolte, il a essayé de le prendre et les serviteurs de son fils ont pensé qu'il voulait voler le cheval. Et ils l'ont donc battu et il en est resté estropié. Et il a été mis en prison et son fils, au bout de 7 ans, voyant tous les malheurs qui arrivaient sur tout le pays, a fini par demander une consultation pour savoir la volonté des divinités, pourquoi il y avait tant de calamités qui s'abattaient sur le pays. Et il a été dit que le père était en prison injustement et qu'il fallait qu'il le recherche. Il l'a sorti et il l'a donc lui a rendu tous les honneurs qui lui étaient dus. Mais la danse, la première partie de la danse, rappelle le fait que le père... Et Oshala était tout estropié et la divinité danse en mimant les pas d'une personne qui ne pourrait plus se relever et qui est presque qui danse presque accroupie. Bon, cette partie terminée, Yinsin repart et on l'habille de nouveau avec des vêtements beaucoup moins luxueux parce qu'elle va distribuer les beignets, les petits beignets qu'on appelle akaragé ici et qu'on appelle akara en Afrique. Et elle vient avec un grand plat sur la tête et tout le monde vient prendre des akaragé une fois qu'elle est assise au milieu de la salle. Tout le monde vient prendre les petits beignets et les mange. Et on s'essuie les mains sur la jupe parce que c'est une force que l'on donne à la maison en passant les mains pleines d'huile sur la jupe de la divinité. Et une fois cette distribution terminée, elle repart et elle revient avec tous ses attributs, c'est-à-dire avec sa couronne, sa cuirasse, son épée, qui est une sorte de petit coutelas, genre cimeterre, les petits, et la queue de vache emmanchée qui forme une sorte de petit plumeau avec lequel elle se défend du monde des âmes. Elle danse en repoussant les âmes hors du monde des vivants. Et toute la danse est un mime de cette lutte contre les âmes qui peuvent s'approcher. Elle mime aussi les cérémonies que l'on fait lors de la mort des initiés pour renvoyer leur âme. Elle imite le mouvement des joueurs de tambour. Je ne sais pas si vous avez noté, à un moment, elle danse d'un côté et d'autre, en mimant les battements des mains sur les tambours, comme on le fait pendant les cérémonies de l'Acheché, qui sont les cérémonies qui renvoient l'âme du défunt dans le monde des morts. Et toute sa danse est l'expression de cette lutte, de cette défense du monde des vivants contre le monde des morts. Et enfin, elle repart et la cérémonie se termine par les chants pour Oshala et les initiés qui ont pu rentrer en transe lors de la fête sont réveillés, sortent et sont réveillés dans les pièces du couvent.
Quelles sont les principales étapes de l'initiation ?
Bon, la première étape de l'initiation, c'est justement cette entrée en transe, alors qu'on est spectateur et qu'on n'a jamais participé à rien. Alors la personne, généralement, tombe dans une transe qui est généralement un genre de catalepsie. Elle tombe raide par terre et on la transporte et on la réveille ensuite. On dit que la divinité l'a tuée. On la couvre d'un grand morceau de tissu, d'un pagne, et on l'emmène, bon, et on la réveille, parce qu'on n'initie pas les gens contre leur volonté. En Afrique, dans des villages où toute la vie est tournée vers le culte des divinités, où c'est un culte, comment dirais-je, de la communauté. On peut initier les gens de cette façon, mais dans un pays comme le Brésil, il faut le consentement de la famille, il faut le consentement de la personne elle-même. D'autre part, être initié contre sa propre volonté, ça ne fait jamais une bonne initiée, parce qu'elle finit par être rebelle. Et alors on a des cas où il y a des châtiments de la divinité, parce que la fille, l'initié, se rebelle contre les volontés de sa divinité. Et alors on a des conflits internes, terribles, des conflits internes, j'entends, dans la propre personne. Il y a des affrontements terribles.
Est-ce qu'il n'y a pas une certaine façon de canaliser la transe ?
L'initiation, c'est justement tout le travail de canalisation. On façonne à l'aide de plantes, à l'aide de rites, à l'aide de la danse. On façonne l'initié dans un monde. On la restructure intérieurement à l'image de sa propre divinité. Et on crée en elle une espèce d'ossature très ferme, très, très solide, qui lui crée une sorte d'inconscient, comment dirais-je, dans son inconscient, elle est restructurée, si vous voulez, à une image divine. Et elle en sort, en somme, magnifiée. Mais elle ne le sent pas au départ, dans les premiers temps. Vous voyez ? Si elle observe les lois du candomblé, elle va accumuler énormément de force en elle. Une espèce de force psychique, une espèce de force spirituelle qui va lui permettre de développer toutes ses possibilités.
Alors nous reprenons les étapes de l'initié. Donc vous disiez que la première étape, c'était lorsque, en tant que spectateur, elle entre en transe.
Oui, et c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire, je crois, et de plus troublant pour les Européens. C'est cette entrée en transe où la personne perd conscience et tombe. C'est quelque chose qui a été exclu de la civilisation européenne, mais qui existait, qui a été tout à fait repoussé par l'Église, bien qu'au sein même de l'Église catholique, il y ait eu des phénomènes de transe. Mais il y a eu tout un mouvement très rationaliste qui a repoussé le phénomène de transe. Mais il existe dans énormément de religions. Il ne prend pas toujours les mêmes formes. Ici, on a une transe très active, une transe très mobile, puisque la personne danse. Mais dans les religions orientales, vous avez des phénomènes de transe qui sont des transes statiques. Ça prend des allures très différentes suivant les cultures.
Alors le fait d'entrer en transe est pour vous un signe que cette personne pourrait être initiée ?
Peut être initiée. Alors si elle consent, on la fait de nouveau rentrer en transe et on la rase et on la prépare à l'aide de feuilles, à l'aide des sacrifices, etc., etc. Il y a tout un rituel très très compliqué.
Vous dites on l'a fait entrer en transe, donc vous pouvez vous-même...
Oui, on sait comment on fait entrer en transe. Quand les gens sont entrés en transe une première fois, il y a un réflexe qui s'établit et on le retrouve. Enfin, on arrive, on a des tas de procédés. Il y a les tambours, il y a les chants, il y a toutes les vibrations, il y a les feuilles.
Alors après, donc, la personne est rasée et est complètement isolée du monde.
Elle est complètement isolée du monde. Elle reste dans une pièce sans ouverture pendant 16 jours. 16 jours. Et elle en sort au bout de 16 jours. Et c'est là où a lieu cette fête dont je vous ai déjà parlé, qui est la fête du nom, la fête, le jour du nom, où la divinité va donner son nom au public, va crier son nom au public. Et après, elle danse. Elle danse et elle commence à danser toutes les légendes de la divinité. Ces trois jeunes filles, enfin ces trois femmes, puisqu'il y en a une qui est déjà mère de trois enfants. Il y a une Oshun, qui est la divinité de l'eau douce, qui est une divinité calme, très, très reine, dans son, enfin, qui a une présence très, très princière, en somme. Et puis les deux autres sont deux divinités de la terre, de la maladie, de la variole, deux divinités assez redoutables, qu'on se garde bien d'offenser. Les gens ont toujours un très grand respect pour Obaloae, le roi de la terre, Omolu. Et elles sortiront couvertes de raffia. On ne verra pas leur visage. On ne verra plus le visage en dehors du moment du nom. On les couvre de ces bonnets de raffia aux franges très, très longues qui tombent presque jusqu'aux pieds. Et elles dansent toutes les légendes qui se rapportent aux propriétés d'Obaloae, qui est de donner la maladie et aussi de guérir. Et c'est une divinité qui s'abaisse jusqu'à terre, montre se frotte le corps en montrant les démangeaisons qu'il ressent. C'est très spectaculaire, c'est très impressionnant.
Et comment passe-t-on alors du stade d'initié à mère de saint ?
Bon, on reste apprenti pendant au moins 7 ans. Et puis, si on a appris beaucoup de choses, si on a su apprendre les feuilles, les chants, les légendes, et que le propre initiateur décide que la personne est digne d'être mère ou père de saint, ça peut être un homme, et au cours d'une cérémonie, on lui remet un grand panier dans lequel sont tous les insignes de la mère de saint, c'est-à-dire toutes les poudres, tous les petits récipients avec des poudres, avec des feuilles, tout ce qui servira à faire des initiations, le rasoir, le couteau, les ciseaux qui vont permettre de couper les cheveux aux gens, etc. etc., etc. Il y a tout. C'est très apprécié aussi. Ça s'appelle le déca. La remise d'un déca, une cérémonie très prisée. Très peu de personnes reçoivent le déca, beaucoup s'improvisent père ou mère de saint, surtout à Rio de Janeiro, et ça donne souvent des catastrophes parce que les gens sont initiés de travers, on les a façonnés à une divinité qui n'est pas en fait le fond même de leur personnalité. Alors on déséquilibre encore plus la personne et on arrive à des catastrophes. Mais s'ils savent s'orienter, aller chez des gens qui ont un vrai père de saint, une vraie mère de saint, ça n'arrive pas, c'est très rare.
Le père de saint ou la mère de saint devient donc responsable à ce moment-là de tous les initiés.
Responsable de tous les initiés. Oui. Elle résout pratiquement tous leurs problèmes. Elle résout. Non, elle ne résout pas, mais elle donne des conseils qui pour eux sont pratiquement des ordres. Fais ceci, ne fais pas cela, dans toutes les circonstances de leur existence. Si ils sont malades, on vient la consulter. Si ils ont des problèmes d'argent, on vient consulter la mère de saint. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce que les divinités veulent une offrande? Est-ce que mon fiancé est valable? Est-ce que je dois me marier? Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'enfant? Etc., etc., etc. Tout ça, ça revient à la mère de saint.
Et vous répondez à tout cela?
Je réponds à un certain nombre de choses, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Tout dépend de la réponse du jeu de divination, qui peut dire ça n'est pas du ressort des divinités. Très bien. Ou bien dites... c'est du ressort des divinités, faites une offrande à Shango, faites une offrande à Yemanja, faites une offrande à Yinsin, faites une offrande à Ogun.
La réponse donc ne vient pas de vous, elle vient de la divinité qui vous inspire.
Elle vient du jeu de divination.
Qui se pratique comment ?
Qui se pratique à l'aide de Kori. On interroge les divinités par l'intermédiaire du jeu de Kori. Et on donne les réponses. Bon, il y a une part aussi d'intuition qui joue, mais en fait, le jeu est très codifié. Il y a toute une série de légendes qui se rapportent au jeu. Et suivant les réponses du jeu, il y a des figures très précises auxquelles se rapportent un certain nombre d'histoires. Et dans ce corpus d'histoires, on choisit pas exactement, on joue pour savoir quelle est l'histoire qui se rapporte à la question posée.
Mais vous disiez qu'il y avait justement de bonnes mères des saints, il y en a qui réussissent moins bien, cela veut donc dire que ce n'est pas complètement automatique cette divination et que le pouvoir spirituel ou la réalisation spirituelle de la mère des saints doit jouer un certain rôle dans ce cas-là.
Tout à fait d'accord. Il y a une très grande part d'intuition, de pouvoir spirituel, d'inspiration divine, disons. Qui entre en jeu. Et puis il y a aussi, vous savez, il y a une grande part aussi d'influence psychologique. Quand on va chez le médecin et qu'on est malade, quand on a l'ordonnance en main, on va déjà mieux. L'influence de la mère de saint, c'est aussi ça, le fait d'avoir consulté vous dynamise.
Dans le fond, tout cela pourrait très bien être analysé par la psychologie des profondeurs, une sorte de psychologie jungienne, et lu de manière totalement symbolique, sans du tout, attention, je veux dire quelque chose comme qui va vous ennuyer, sans du tout qu'il y ait forcément d'existence divine extérieure. Ce ne serait que des forces psychiques intérieures qu'on réveille.
Oui, où le système ne fonctionne plus, c'est quand on agit à distance sur les gens. Quand on fait des choses pour des gens qui ne sont pas présents et qui ne sont pas conscients qu'on fait quelque chose pour eux. Et ça arrive.
Et vous avez des cas vraiment concrets et précis.
Oui. Bon, on peut toujours dire que c'est le hasard. J'ai eu un Français qui un jour est venu me trouver parce que sa mère s'était cassée le col du fémur. Elle était âgée, elle avait des tas de problèmes de santé et le fait de s'être cassée le col du fémur, elle est considérablement handicapée. Et une fois qu'on l'a déplâtrée, elle ne se relevait pas de son lit et elle était très, très amorphe, elle ne réagissait pas du tout. Elle ne faisait aucun effort pour reprendre une vie un peu normale. Et il m'a demandé de faire quelque chose pour elle. Et j'ai donc fait des offrandes en me servant de sa photographie. Alors, par un bienheureux hasard, diront les Européens, à ce moment-là, elle a recommencé à avoir une certaine activité et elle a fini par se remettre debout, marcher, avoir le courage de marcher et de rentrer chez elle. Elle a pu rentrer chez elle. Ça faisait des mois qu'elle était dans cette clinique sans s'en sortir, démoralisée, désespérée, assez amorphe, et à partir du moment où on a commencé à faire ses offrandes, elle a repris espoir, elle a eu de nouveau la volonté de vivre, de lutter. Bon, c'est un hasard, diront les gens. Pas non. Pour les gens qui ont la foi.
Oui, mais on peut avoir une foi en vous, en vos pouvoirs
mais
psychiques.
Mais elle ne savait rien.
Non, mais vous avez peut-être, car il y a des êtres, la science les examine, et tout le monde le sait depuis longtemps, qui ont des pouvoirs psychiques particuliers, aussi bien sur d'autres psychismes que sur la matière. L'important est de savoir s'il y a vraiment une intervention extérieure ou uniquement l'intervention de votre pouvoir psychique.
Bon, alors ça, je ne saurais pas vous dire. Si tout n'est que psychique. C'est très tentant pour des Européens d'expliquer comme ça. Ça permet, c'est sécurisant, vous comprenez ? Pour nous, Européens, c'est sécurisant.
Oui,
non, oui enfin, ça donne une explication rationnelle.
Oui, mais ça prouve qu'on est seul dans l'univers.
Oui, c'est pas sûr.
Mais vous doutez quand même, vous ne répondez pas avec des affirmations brutales.
En tant qu'Européenne, je ne réponds pas avec des affirmations brutales, oui. Mais il y a quand même des choses qui sont inexplicables. Il y a des coïncidences. Dans certains cas, on a ce que les gens appellent des récades. C'est un message. Il y a des messages, des choses qu'on interprète. Moi, je dois vous dire que je ne vois pas le dixième de ce que les gens voient ici.
Bien que mère de saint.
Oui. Il y a récemment, il y a quelqu'un ici qui a vu sur le pied de cannelle que nous avons une boule de feu qui est descendue. Et il m'a dit, c'est pas la première fois que je vois cette boule de feu, c'est une force qui m'accompagne, c'est toujours pour moi un message de quelque chose qui va m'arriver, ou en bien ou en mal. Bon, toujours est-il que le pied de cannelle, ça s'appelle un cannelier en français, j'en suis pas sûre, le pied de cannelle a été brûlé en plusieurs branches. Les branches, du jour au lendemain, se sont desséchées. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que le pied de cannelle, qui était bien vert, se dessèche brusquement. C'est là où il a vu la fameuse boule de feu, sans que ce soit pendant un orage. Bon, c'est un phénomène que je n'explique pas.
Et vous, vous avez du pouvoir sur le psychisme des autres ou sur la matière ?
Oui, j'ai un pouvoir négatif sur ce que je plante ou sur ce que je coupe, les plantes que je taille. Si je taille un oranger, j'ai déjà taillé des orangers, les orangers sont morts. Je n'ai pas la main bonne pour les plantes. Ça ne pousse pas, ça végète. Si je les fais planter par d'autres personnes, ça pousse beaucoup mieux. Par contre, j'ai nettement une bonne main, disent les gens, pour guérir les brûlures, les écorchures, les abcès. Si bien qu'on m'amène toujours tout un tas de gens qui ont des abcès, et j'ouvre des abcès, enfin je fais une petite médecine. ça guérit bien. J'ai eu un cas d'un homme qui avait d'énormes, une crise de furoncle absolument incroyable dans toutes les parties du corps, c'était ahurissant. Et on m'a dit, oh, moi ça m'ennuyait de m'occuper de ces furoncles. J'avais autre chose à faire et ils ont tellement insisté. Bon, j'ai ouvert les furoncles avec une lame de rasoir, c'était horrible. J'ai bien désinfecté et tout s'est miraculeusement guéri. Mais je ne peux pas dire que j'ai un pouvoir extraordinaire, je crois, je sais pas.
Est-ce que vous observez autour de vous de grandes modifications parmi ceux qui vous entourent et qui sont initiés ?
Oui, ils affirment nettement leur personnalité. Ça, c'est très net. Leur santé s'améliore et leur personnalité s'affirme, en bien généralement. Ils disent tous, on ne peut pas se plaindre parce que nos crescemos depois, c'est-à-dire qu'on a, grandi, on a commencé à croître. On a grandi, j'entends pas dans le sens physique pur, mais on est plus riche, on a un meilleur emploi, on s'est fait construire une maison. Il y en a un qui avait des problèmes de santé terribles et qui est devenu beaucoup plus résistant.
À condition, bien sûr, qu'on ne se trompe pas de Dieu ou de déesse.
À condition de ne pas se tromper et à condition aussi que l'initié lui-même observe les règles de vie qui lui incombent. Et ça, c'est très important. C'est une discipline, et une discipline, finalement, c'est plutôt une hygiène de vie, vous voyez, qu'une discipline morale. C'est pas tellement une discipline morale. C'est une hygiène de vie. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. On est très exigeant, par exemple, sur les bains. Le fait qu'à 6 heures du soir, l'initié prend son bain. Le fait que le matin, il prend son bain, qu'il ne parle pas avant de s'être lavé la bouche, qu'il ne parle pas, qu'il ne sort pas de chez lui avant d'avoir bu un peu de café ou mangé un peu, on ne sort pas à jeun. Tout ça, c'est très important. On n'aime pas manger dans la rue, on n'aime pas, on aime savoir qui a préparé la nourriture. Les initiés ont des règles de vie précises. Sexuellement, ils ont des interdits. Tel jour, ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles parce que c'est le jour de leur divinité. Tout ça leur donne une sorte de structure morale précise. Il y a des choses à faire, à ne pas faire. Il y a des aliments qui sont nocifs, qui sont en fait des aliments qu'on digère difficilement, qui sont difficilement supportables, qui sont des interdits. Mais chacun a ses propres interdits, ce n'est pas une règle de vie uniforme pour tous. Par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser certaines couleurs dans leurs vêtements, ou bien qui ne peuvent pas se couvrir d'un drap de couleur.
Et ces interdits dépendent du dieu ou de la déesse dont dépend l'initié.
Oui, mais la personnalité, c'est le reflet de la divinité généralement. La divinité influe sur l'initié, mais l'initié n'influe pas sur sa divinité. Voyez, il ne change pas le comportement de sa divinité. La divinité donne un ordre, il l'exécute parce qu'il parle lorsqu'il est en transe. Elle dit, il faut que mon fils fasse ceci ou cela, puisqu'on considère qu'il y a une relation parent-enfant, plus que la relation africaine qui est d'époux à épouse. On est l'époux de la divinité. Yao, ça veut dire épouse. On dit Yao, c'est époux ou épouse de la divinité. Bon. En fait, ici, on établit la relation comme de père ou mère à enfant. Alors, il dit, mon père m'interdit de faire ceci. Ou la divinité dit, j'interdis à mon fils de faire ceci. Alors, il peut se rebeller. Et il subit les conséquences de sa rébellion par un certain nombre de châtiments que lui inflige sa divinité, qui sont parfois même des châtiments corporels, alors que la divinité est incorporée. Elle peut le battre et il se réveille couvert de bleu. Elle peut l'enrouler dans des feuilles pleines d'épines, etc., etc., etc.
Alors il y a un phénomène très curieux à observer, c'est les relations qu'il y a entre tous ces dieux et ces déesses qui sont d'origine africaine, et les saints du calendrier chrétien.
Bon, c'est un système un peu flou, hein, cette assimilation, parce que suivant les régions, les assimilations étaient différentes. En fait, comme il n'y avait plus d'artistes dans la communauté, il n'y avait plus un certain nombre de sculpteurs qui représentaient les divinités africaines, il n'y avait donc plus de représentation matérielle des divinités. Alors les gens se sont servis des images des saints catholiques. Bon, il y a peut-être eu la pression des gens du temps de l'esclavage, je ne suis pas très sûre de ça. J'ai trouvé des traces d'assimilation au Congo, déjà il y a très longtemps de ça. Il y a eu une fameuse Béatrice qui, elle, recevait un saint Jean ou un saint Antoine et qui a finalement été brûlée vive au Congo. Je crois que c'était au XVIIe siècle, c'était déjà très lointain. Donc déjà, en Afrique, par suite de la présence des missionnaires, il y avait eu des assimilations. Et l'entrée en transe, elle recevait Saint Jean ou Saint Antoine. Alors il y a eu ici, peut-être, par la pression de l'esclavage, une sorte de camouflage des divinités sous le couvert des saints catholiques. Je crois surtout qu'il y a eu attirance de l'iconographie, parce que l'assimilation s'est faite par suite des détails des images. Vous voyez, Sainte Barbe dans sa tour, avec son petit canon devant elle, la divinité des artilleurs, c'était la représentation de Yinsin. Vous voyez, c'était normal, ils ont trouvé cette divinité et ils l'ont assimilée à leur divinité. Ils ont trouvé ce saint et ils l'ont assimilé à la divinité africaine. Mais je ne suis pas sûre que ce soit très profond, en fait. Bon, ils ont pris, dans la religion catholique, il y a une sorte aussi de rituel. Tout ce qui est sacralisation les attire. On utilise les saintes huiles pour certaines cérémonies. On utilise le sel pour débarrasser les gens des mauvaises influences représentées par Échou. Ce sont des procédés d'exorcisme. Tout ça, ça a été très rapidement assimilé par les descendants d'Africains ou par les Africains en esclavage. Le signe de la croix est aussi un procédé de défense qu'ils ont assimilé très facilement.
Oui, ça reste très extérieur en fin de compte.
Ça reste très extérieur, mais n'empêche qu'une personne qui ne serait pas baptisée, ça leur semble impossible qu'elle soit initiée. Il semble qu'elle soit chargée d'influences maléfiques qui ne peuvent être détruites que par le baptême. J'ai assisté une fois à une conversation. La mère était entrée en réclusion et le bébé n'était pas baptisé. Le bébé avait 1 an. Et on a dit, on pourrait bien l'emmener voir sa mère, après tout, pauvre petit lapin, il est là, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, ben, c'est bien ennuyeux parce qu'il n'est pas baptisé. Est-ce qu'on peut le faire rentrer dans les pièces d'initiation? Il n'est pas baptisé. Et pour eux, c'était une perturbation, un danger qu'on introduisait avec cet enfant qui n'était pas baptisé. Alors, on peut dire que le catholicisme est très superficiel parmi les gens du camp d'Omblée. Mais il n'en reste pas moins que toute initiation se terminait jadis par une messe. On allait entendre la messe dans une église, et plus spécialement l'église de Bonfim, l'église de Notre Seigneur de la Bonne Mort. Bon. Et puis aussi, toute cérémonie funèbre se termine par une messe qui est dite pour l'âme du défunt. Défunt initié, bien entendu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu exagération. Beaucoup de pères et de mères de saints ont emmené leurs initiés habillés de blanc, avec leur collier autour du cou et un turban bien serré sur la tête rasée. Et puis arrivés dans l'église, au moment de la messe, au moment de l'offertoire, les gens sont entrés en transe, et les prêtres ont vu ça d'un mauvais œil, tous ces gens qui entrent en transe dans leur église. Évidemment, ça crée une certaine confusion. Si bien que de plus en plus, ils ont tendance à interdire l'entrée de l'église aux initiés. Alors, il y a des églises plus coulantes, qui sont les églises catholiques brésiliennes. Il y a une branche dissidente dans l'église catholique ici. Il y a une branche qui ne reconnaît pas tout à fait l'autorité du pape et qui est plus accommodante. Il y a même des prêtres qui viennent dire des messes à l'intérieur des couvents. Ça se fait.
Gisèle Cossard, vous représentez vous-même un phénomène de métamorphose très curieux. Je vous trouve ici à quelques kilomètres de Rio de Janeiro. Vous êtes mère de saint, vous animez vous-même des cérémonies d'initiation dans votre centre, c'est-à-dire le couvent dans lequel nous sommes venus vous voir. Et vous êtes d'origine française et de culture purement française. Et je crois que c'est un cas unique, ou quasi unique.
Oui, je crois que c'est un cas unique. Quand je suis venue ici il y a 20 ans, je pensais que j'arrivais dans une terre d'Indiens, que j'allais trouver des choses très différentes de ce que je connaissais. J'avais vécu 8 ans en Afrique, je connaissais pas grand-chose du Brésil, et j'ai été très étonnée de ne pas trouver d'Indiens à Rio de Janeiro, et de trouver au contraire des descendants d'Africains qui me semblaient très, très Africains. Et des descendants d'Africains qui étaient très Africains et qui étaient aussi très Européens. Alors j'ai été très très déconcertée et je me suis rendu compte qu'il était plus facile d'approcher ces descendants d'Africains que de connaître les Africains eux-mêmes. Parce que lorsque j'étais en Afrique, j'étais l'épouse d'un fonctionnaire important Et il y avait un monde tellement grand, un fossé tellement grand entre les Africains et les Blancs, et surtout les Blancs qui avaient une position dans le gouvernement, qu'il était impossible de se comprendre. Il y avait deux blocs séparés, les Africains et les Blancs. Les Blancs n'allaient pas chez les Africains ne venaient pas chez les Blancs. On vivait parallèlement sans se connaître. Et pendant 8 ans, je n'ai pas pu connaître les Africains. J'ai vu vivre les Africains, mais ce qu'ils avaient dans la tête, je l'ignorais totalement. Et alors j'ai eu un sentiment de frustration immense. Parce que moi j'aime bien voir comment les autres réagissent et savoir ce qu'ils pensent. Mais ça, c'est quelque chose qui est très difficile. On a déjà du mal à connaître les gens qui vous entourent, et on a encore plus de difficultés à connaître des gens d'une autre culture. Ils réagissent différemment, ils ont d'autres normes, ils ont d'autres références que les nôtres, et on passe à côté de tout ça sans se comprendre. Alors on dit, ils font ça, c'est idiot, et on ne sait pas pourquoi ils font. On ne cherche pas à savoir. C'est quelque chose de terrible, ce manque de contact.
Donc au début, quand vous êtes arrivé au Brésil, c'est plutôt donc la curiosité qui vous poussait.
Ah oui, j'ai récupéré 8 ans de frustration parce que j'ai réussi quand même à connaître les gens beaucoup plus facilement. Quand j'ai vaincu la difficulté de langue, parce que je ne parlais pas portugais, mais j'ai vite plongé dans le portugais, un portugais approximatif qui a toujours été le portugais de la rue, mais enfin, j'ai quand même très rapidement compris les gens, enfin en partie. J'ai tout de suite parlé, j'ai très mal parlé, je continue à parler de façon approximative, mais suffisamment pour que la communication s'établisse. Alors j'ai cherché, évidemment, ce qu'il y avait d'africain chez les Brésiliens, et je l'ai trouvé dans une couche plus humble de la société, évidemment, que la couche sociale dans laquelle je me trouvais incluse. Mais ici, la barrière sociale, c'est quelque chose qui n'existe pas comme en Europe. Il n'y a pas une société cloisonnée, stratifiée. Il y a des possibilités de contact très grandes. D'abord parce que les Brésiliens de la bonne société sont plus simples, pas de race, de sentiment de caste. Ça n'existe pas, tout le monde est très copain, tout le monde mange la même nourriture, le haricot, l'éternel haricot et le riz. Il n'y a pas de classe de la société, on ne mange pas le riz et le haricot. C'est très important de manger la même chose. En Afrique, on ne mangeait pas la nourriture, il y avait la nourriture pour le blanc et la nourriture pour le noir. Et si on disait « mais je voudrais goûter de ça », les Africains disaient « c'est pas pour le blanc ». Alors, on ne pouvait jamais manger la même chose. Donc, comment peut-on se comprendre si on ne mange pas la même nourriture ? Très important, ça.
Alors, en allant à la rencontre d'un peuple, vous avez trouvé ses croyances.
Oui. Et je me suis sentie très, très à l'aise dans ce milieu de Canomblé. D'abord, parce que c'était un milieu allègre, c'était un milieu très vivant, c'était un milieu très chaud. Et puis un jour, je suis tombée en transe, et alors évidemment, pour moi, ça a été dramatique, parce que j'avais l'impression qu'il s'était passé quelque chose dans ma tête que je ne maîtrisais pas, et ça m'a affolée. Et je me suis rendu compte que si j'arrivais à vaincre ma peur, j'allais avoir une expérience que peu de gens avaient jamais tentée, et que, bon, il fallait que j'accepte pour savoir, pour vraiment pour pouvoir comprendre tout ce qui se passait dans ce monde si extraordinaire des Canomblés. Et j'ai fini par être initiée. Et ça m'a énormément dynamisée. Je ne dis pas que je n'étais pas dynamique, j'ai toujours été très active, mais je ne sais pas, ça m'a affirmée énormément. Je crois que ça m'a affirmée énormément. Et ça m'a donné la force de lutter dans beaucoup de circonstances de mon existence qui peuvent sembler être relevées de l'adversité. Bon. Pour moi, non. Je crois que finalement, j'ai divorcé. J'ai réussi quand même à me... J'ai eu la force de me recycler de me retrouver un métier après 20 ans, 19 ans de mariage où j'avais pas travaillé. Je pense qu'il y a une bonne part de mon initiation qui a fait que j'ai eu le courage de lutter. Je me suis dit un jour que je reviendrai au Brésil. J'ai toujours beaucoup aimé ce pays. Et bon, ça m'a dynamisé énormément. J'ai fait une thèse avec le professeur Bastide. Ça m'a permis d'approfondir ce que je connaissais et de cerner beaucoup de problèmes qui faisaient partie du camp d'Omblée. J'ai été la première à dire qu'il y avait correspondance entre la divinité et la personnalité de la personne. Maintenant, c'est devenu chose courante, tout le monde parle de ça. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Je me suis intéressée à la psychologie, j'ai suivi des séminaires au Centre Richer à Paris, j'ai suivi tous les séminaires de Bastide. Dans tous les domaines, je crois que ça m'a affirmée.
Mais au-delà du développement de votre personnalité et des éléments de curiosité qui vous ont nourri, et au-delà même de cet équilibre que vous avez trouvé, il y a un moment donné où intervient la foi. Il faut y croire. Or vraiment, vous, Française, vous y croyez à tous ces dieux ?
J'y crois parce que ça fonctionne. Vous comprenez, si on s'échappe de la représentation un peu enfantine de ces divinités, le fait d'être assimilé à un certain nombre d'éléments de la nature, à un certain genre de musique, à un certain nombre de rythmes, à une chorégraphie précise. Tout cela, ça structure la personne et ça l'aide à vivre. Vous voyez ? Alors, bon, vous dites, bon, c'est Oya ou c'est Xangô, la divinité du tonnerre, ou c'est Ogun, la divinité de la guerre. Mais l'important, c'est pas tellement la représentation sous forme d'un homme casqué ou d'une femme maniant l'épée, habillée de couleurs violentes, orange ou marron. C'est pas ça. C'est l'assimilation d'une... Comment vous expliquez ça ? C'est le fait que l'on est imbriqué dans l'univers de façon plus harmonieuse, si vous voulez. On appartient à un certain nombre de feuilles, on est lié à des feuilles, on est lié à des éléments de la nature, on est lié à des certains types d'animaux. On n'est plus un élément isolé dans le monde. On est imbriqué dans toute la nature, dans l'univers.
C'est un des moyens de retrouver cette unité, mais c'est le but aussi de toutes les religions. C'est d'ailleurs l'étymologie même du mot religion, relié. Alors à ce moment-là, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme poussent vers cette unité complète, d'abord avec ses forces psychiques inconscientes, et ensuite avec le cosmos. Donc quand vous êtes en face de ces dieux, vous y croyez comme la seule réalité spirituelle ou comme une des figurations de cette réalité spirituelle ?
Je crois que c'est la figuration d'une réalité spirituelle qui est universelle. Je ne nie absolument aucune religion, ni le bouddhisme, ni le catholicisme. Le tout, c'est d'avoir un système qui permet de se surpasser.
Et pourquoi vous, Française, avoir choisi ce système qui, après tout, fait partie intégrante d'une culture qui n'est pas la vôtre ?
Oui, mais il faut bien dire que ce que j'avais trouvé en Europe, ou ce que j'avais connu en Europe, me laissait froide. Ici, j'ai trouvé quelque chose qui correspondait plus à mes désirs inconscients, probablement. Là, il y a un phénomène que je ne peux pas très bien expliquer, mais je ne me pose pas tellement de questions. Je suis bien dans mon système, dans ce système, même si ce n'est pas celui de ma culture d'origine. Je me sens tout à fait à mon aise.
Et vous avez été facilement accepté par les Brésiliens ?
Vous savez, à l'intérieur d'un camp d'Omblée, hein, c'est un petit monde avec toutes les luttes internes à une petite communauté. C'est pas facile. Et puis, j'étais très blanche, hein. Au milieu de gens de couleur, et il ne faut pas oublier qu'il y a un contre-racisme. Et pour être acceptée, j'ai dû accepter le rôle le plus humble et me mettre dans la position la plus humble. Je n'ai jamais eu de traitement spécial en tant qu'initiée à l'intérieur de mon camp d'Omblée. Et chez mon père de saint, puisque c'était un père de saint qui était mon initiateur, Je n'ai jamais essayé d'avoir des privilèges. J'ai fait ce que les autres faisaient, sans jamais essayer d'avoir un traitement de faveur. Une initiée, ça dort sur la natte, ça mange avec la main, ça mange la nourriture qu'on lui donne sans jamais réclamer, ça lave, ça plume des poulets, ça attire l'eau au puits. Tout ça, je l'ai fait, ça, j'ai vécu sur la natte, prenant mon bain dans un seau, dehors, dans une petite cour, comme tout le monde. J'ai toujours fait tout comme tout le monde.
Et la danse vous est venue facilement ?
Oui et non, ça n'a pas été très facile parce que ça ne correspond pas au genre de danse. C'est une danse où l'on ne danse jamais sur la pointe des pieds. Alors si dans son enfance on a fait un petit peu de danse, on a tendance à... C'est une danse très différente, c'est une danse des épaules. Ça ne m'a pas gênée parce que j'avais quand même assimilé beaucoup de choses en Afrique. Je n'avais pas pratiqué, mais j'avais vu et j'avais déjà assimilé un certain nombre de mouvements.
Vous n'avez pas eu des moments de doute quand vous avez choisi cette voie ?
Non, j'ai pas eu de moments de doute, mais j'ai eu des moments de peur. J'ai eu très peur d'être initiée parce que finalement, on livre sa propre personnalité à une autre personne. On est sans défense. À partir du moment où on est initié, où on rentre en transe, qu'est-ce qu'on allait me faire ? J'en savais rien. Qu'est-ce qu'on allait me faire ? Comment allait-on me conditionner ? Et ça m'inquiétait. Je connaissais le système, mais je l'abordais quand même depuis peu de temps. J'avais bien compris de quoi il s'agissait, mais c'était quand même l'inconnu, cette initiation. Ça m'a fait très peur, je sais pas, j'ai été peut-être poussée par la curiosité. Et finalement, je me suis décidée. Je suis tombée en transe au début de décembre 59 et j'ai été initiée en décembre 60, un an après. Et pendant cette année-là, ça a été pour moi... Entrera pas, qu'est-ce que je fais ? Dans quoi est-ce que je me lance ? Qu'est-ce qui va m'arriver après ? C'était un dilemme profond.
Mais sinon, vous croyez à la valeur universelle du candomblé ? C'est quelque chose qui était valable pour vous, française, mais qui pourrait être valable pour quelqu'un qui n'aurait pas connu la culture africaine, par exemple ?
Oui, c'est tout à fait valable. D'ailleurs, il m'est arrivé plusieurs cas ici d'étrangers qui sont tombés en transe. Et puis, j'ai aussi le cas d'une jeune fille allemande et d'un Français qui est professeur de mathématiques qui sont rentrés tous les deux en transe lors d'un candomblé. Le professeur de mathématiques est de Shango et brusquement il a été pris de tremblements, il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, a été absolument suffoqué de ce qui lui arrivait parce que c'est un bon mathématicien et il niait... il ne voulait pas se conformer, il n'admettait pas ce qui lui arrivait. Plusieurs cas comme ça. Mais on ne peut pas forcer les gens, hein. Il faut qu'ils viennent d'eux-mêmes. Candomblé n'a pas du tout d'esprit de prosélytisme. Si les gens ne viennent pas au candomblé, le candomblé n'a pas à aller à eux, on ne fait pas de propagande. Très différent des adventistes, des protestants qui distribuent leurs petites paperasses à toutes les portes et viennent évangéliser. Non, nous, on n'est pas comme ça. Si les gens ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Ils viennent quand ils en ont besoin. S'ils en sentent le besoin, ils viennent. On n'oblige pas les gens, parce que si on oblige les gens, ça n'a aucune valeur. La valeur, c'est l'effort qu'on fait. C'est ça qui est... S'ils sont décidés à faire des sacrifices, à faire des efforts, à passer par un certain nombre d'épreuves qui sont pénibles, les bains dans la température aujourd'hui, les bains le matin, les bains d'eau froide ou les bains de plantes, c'est quand même dur. Vivre sur la natte pendant plusieurs jours enfermé, c'est dur. On est coupé du monde, on est dans un inconfort total. Bon, tout ça, ça représente des sacrifices qui donnent de la valeur à ce qu'on fait. Quand tout est facile, rien n'a de valeur. Thank you.
Avec Gisèle Cossard, nous avons vu le dialogue vivant de l'Europe et de l'Afrique avec le Brésil. En fait, d'ailleurs, on peut dire qu'elle a trouvé l'Afrique qu'elle avait en vain cherchée sur place au Brésil. Mais maintenant, poursuivons le dialogue des cultures, mais selon d'autres modalités, avec Naïm Katan. Il est venu du Proche-Orient, d'Irak. Il est passé ensuite en Europe, en France, où il est devenu un écrivain francophone, avant d'aboutir au Canada et de là de descendre vers le Brésil, où il a été touché à son tour par sa révélation.
Je suis devenu au Brésil par choix et par besoin. J'avais cette idée mythologique d'un lieu privilégié dans le monde de mélange de races. J'ai dit voilà une civilisation qui, en Amérique, a pu réaliser, mettre réellement en vigueur ce rêve que j'avais, moi, que des races se rencontrent, se mêlent et demeurent libres tout en gardant une certaine distinction culturelle. J'ai appris le portugais aussi pour pouvoir parler aux gens et comprendre ce qu'est ce mélange de races, ce métissage. Pour moi, le Brésil, c'était le lieu d'élection de métissage. Et quand je suis arrivé, j'ai parcouru le pays du nord au sud. Je suis allé de Porto Alegre jusqu'à Belém, en passant enfin un peu partout dans toutes les villes. Et j'étais impressionné par beaucoup d'autres choses que cette idée mythique que j'ai eue de Brésil. D'abord, le mélange de races s'est effectué. Ça ne va pas sans problème. Je ne veux pas dire que c'est un pays où il n'y a absolument pas de racisme. Il y a des problèmes. Mais c'est un pays dont la notion de rapport humain est basée sur le mélange des races. Et ce mélange de races est un mélange qui prend son point de départ dans l'érotisme. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le grand sociologue brésilien Gilberto Freire qui disait que quand les Portugais arrivaient au Brésil comme envahisseurs et commerçants et immigrants, ils voulaient avoir une récompense. Et leur grande récompense, c'était de faire l'amour avec des Indiennes. Ce n'était pas le cas en Amérique du Nord, pour beaucoup d'autres raisons. Donc, dès le point de départ, il y avait ce besoin de mélange de races comme une récompense et comme possibilité de bonheur dans une terre nouvelle. Le Brésil, c'était le pays d'une possibilité d'un bonheur d'un genre nouveau. Quand les Africains sont arrivés en esclaves. Ils étaient en grand nombre. Leur rapport avec les Blancs était différent. D'abord, les Blancs brésiliens, pendant des siècles, avaient eu comme maître dans leur propre territoire un peuple encore plus foncé qui était les Arabes. Alors quand ils sont arrivés ici, ils n'étaient pas convaincus eux-mêmes de la supériorité de la race blanche, comme les Anglo-Saxons qui sont allés en Amérique du Nord. Ils acceptaient que des races non blanches aient leur culture et aient une certaine distinction. Et donc, leur rapport avec les Indiens et leur rapport avec les Noirs était différent. Et il faut dire aussi que le climat et la terre brésilienne a beaucoup changé le rapport des hommes entre eux, le rapport des Blancs et des Noirs et des Jaunes, des Indiens. Il y a eu des jeunes aussi, des Japonais qui sont venus plus tard. Et ce mélange a créé une culture. Cette culture, et on la voit beaucoup dans la littérature, et cela m'a beaucoup impressionné dans la culture vécue et dans la littérature, a donc un fond multiracial qui s'est mêlé, qui s'est fondu en une culture qu'on appelle brésilienne, et où on trouve aussi des différences assez grandes. On voit le candomblé, tout ce qui est africain, qui est encore là. Et ce n'est pas le cas seulement des Noirs, c'est le cas aussi des Blancs. Les Blancs aussi y croient maintenant dans le candomblé, dans certains rituels africains, dans certains bijoux africains qui peuvent éloigner de vous le mal ou vous donner le succès. Et je ne jurerais pas, si je restais ici, que je ne me nuirais pas de ces bijoux aussi, de ces objets. Parce que la terre vous oblige à le faire, et l'importance de la candomblé n'est pas une importance uniquement de folklore, mais c'est une importance aussi bien religieuse que vitale. Il y a eu donc tous ces éléments, et il y a eu aussi une culture qui est venue de l'Europe, de la France, en particulier en sud de l'Angleterre. Si vous regardez le drapeau brésilien, vous voyez deux mots qui viennent d'Auguste Comte, parce que Auguste Comte était le maître à penser de Brésil. Et cela nous ramène à un autre Brésil, qui est le Brésil des élites, qui étaient des élites françaises, en partie, qui allaient à Paris, qui étaient presque aliénées dans leur rapport avec leur propre culture en rentrant, mais qui ne pouvaient pas s'en défaire. Et on voit ça beaucoup dans la littérature. On voit la présence intime de la terre, des Noirs, des Indiens, de tout ce qui est populaire, et aussi bien dans la musique que dans la peinture que dans la littérature. Et on voit le raffinement européen, et le raffinement qui était poussé très loin dans la littérature brésilienne. Et alors, si vous voyez à l'heure actuelle des écrivains, vous voyez aussi bien des écrivains qui est d'ailleurs traduit en français de Clarice Lispector et Osman Lins, tous les deux morts jeunes malheureusement, et qui étaient des écrivains très très compliqués et très avant-gardistes. Mais vous voyez aussi des écrivains très populaires, très réalistes, qui parfois exploitent le réalisme et exploitent le pittoresque de leur pays, comme Jorge Amado ou d'autres écrivains, d'autres romanciers et d'autres poètes comme Andrade et Cabral, qui eux reçoivent le fond et essaient de le traduire dans une langue très moderne, très actuelle et parfois très compliquée. Au Brésil, contrairement ou différemment de l'Amérique du Nord, dans la littérature, il y a la présence des Noirs et des Indiens. Et il y a une civilisation qui était très blanche et qui est présente dans la civilisation blanche, qui s'est poursuivie dans la civilisation blanche. En Amérique du Nord, on a mis les Indiens dans des réserves, ils le sont encore d'ailleurs. Et leur civilisation est ethnologique et leur culture est ethnologique. Il n'a pas eu une influence directe. C'est de la culture noire par le jazz et maintenant par la littérature qui a une influence aux États-Unis. Au Canada, il n'y a pas eu de culture noire, mais il y a une culture indienne qui n'est pas qui n'a pas eu sa place directement dans la culture du pays qui s'est développé. Alors donc, on peut dire que en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, il y a des peuples européens qui sont arrivés. Ils ont vu des peuples qui existaient là, un territoire, un espace qui existait là, et leur rapport avec ces peuples et ces territoires était différent. Ça a changé considérablement les peuples qui sont venus de l'Europe, mais cela les a changés d'une manière aussi différente.
Comme le Brésil, les Antilles vivent la rencontre de l'Amérique par la géographie, de l'Europe par le peuplement, les langues et la culture, et de l'Afrique également par le peuplement et la culture. René de Pestre, qui est un écrivain haïtien, était donc en terrain connu lorsqu'il a débarqué au Brésil pour y rester plus de 2 ans, pour s'en nourrir et y découvrir le vrai visage de l'américanité. Terrain connu, mais comme pour Gisèle Cossard et pour Naïm Katane, la révélation a opéré.
Un jour de mai, ou de mars, je ne me souviens pas exactement, 1953, j'ai débarqué à Rio de Janeiro. Et je dois dire que pour moi, c'était dans l'après-midi, ça a été un éblouissement, parce que, et je n'ai jamais oublié, c'est au Brésil peut-être que j'ai eu le sentiment, pour la première fois, quand je suis sorti dans l'avenue Rio Branco, la principale avenue du centre de Rio de Janeiro, que j'ai brusquement eu une espèce d'illumination intérieure et le sentiment de la fragilité de la vie, de la beauté, de l'extrême beauté de la vie et du fait exceptionnel pour quelqu'un d'être en vie. Brusquement, je me suis senti en vie comme je n'avais jamais senti. Je plaignais tous ceux qui étaient morts. Et je pensais que c'était une chose exceptionnelle d'être en vie à Rio de Janeiro. J'étais frappé par la beauté du site. Bon, ça, c'est un lieu commun puisque tout le monde le sait que c'est l'un des plus beaux du monde, n'est-ce pas? Mais aussi par, je ne sais pas, par quelque chose qu'il y avait dans l'air, dans la qualité de la lumière, dans la beauté des gens. Je n'avais jamais vu une telle diversité de visages, de types, qui allaient du japonais à l'indien, du noir, du brésilien. Enfin, c'était le métissage dans toute sa beauté qui éclatait devant ma femme et moi. Et nous avons eu la chance à l'époque d'habiter ici même, c'est-à-dire Copacabana, dans une rue qui n'est pas loin de cet hôtel d'ailleurs. J'étais faire un pèlerinage à ce lieu-là et nous sommes restés plusieurs mois près de 8 mois, dans une espèce de farniente. On travaillait, mais pas beaucoup, juste pour vivre, parce que je trouvais difficile, n'est-ce pas, étant sous le charme de Rio, de travailler vraiment. Et après, on est parti pour São Paulo, où vraiment là, alors on a pris un autre rythme. Et en même temps, c'était un autre étonnement, parce que São Paulo, c'est un autre Brésil. Il y a je crois qu'il y a plusieurs Brésils dans ce pays. Il y a le Brésil de Rio de Janeiro, et puis celui du Nord-Est, et le Brésil de l'Amazonie, le Brésil, et le Brésil de São Paulo, qui est quelque chose d'extraordinaire aussi, mais cette fois-ci dans une autre direction, dans la modernité, dans le futurisme. On disait qu'à São Paulo, on construisait un édifice chaque jour. Les paulistes eux-mêmes disaient que nous sommes la ville où on construit le plus au monde, ce qui était vrai, où tout est exagéré, tout est métaphorique, où tout prend des dimensions extraordinaire. C'était un Brésil un peu hallucinant, à la fois dans le béton et dans l'imagination, dans la végétation, dans tout. Le Brésil est extraordinaire dans toutes les directions possibles du Brésil. Et à l'époque, on avait l'impression que la patte brésilienne n'avait pas encore pris, n'est-ce pas, que le Brésil restait un pays d'avenir, comme disait Stéphane Zweig. C'est vrai, mais j'ai l'impression que en ce moment, le temps du Brésil est en train de rencontrer son espace. Tout au moins, c'est l'impression que je retire d'un autre séjour que j'ai fait au mois d'avril dernier à travers tout le Brésil, où j'ai eu le sentiment que cette fois-ci, le Brésil est en train de rattraper le temps, est en train de rattraper l'espace. Parce que je crois que c'est un écrivain brésilien qui a dit, Clarice Lispector, une femme écrivain extrêmement intéressant, que le Brésil, c'est peut-être l'endroit où le temps ressemble plus à l'espace. Il y a un rapport temps-espace capital dans toute l'histoire du Brésil. Je crois que c'est le même des facteurs essentiels de la brésilianité, de la vie brésilienne.
Jusqu'à maintenant, vous parlez plus des hommes que de la terre elle-même, en dehors du site de Rio qui vous a frappé. Est-ce qu'il n'y a pas une terre dans cette immensité, ce plateau ou les forêts qui vous ont marqué également?
Ah bon, naturellement, au cours de mon séjour au Brésil, je ne suis pas resté, j'ai eu la bouchotte, c'est compréhensible dans un si grand pays. Je ne suis pas resté à São Paulo et à Rio de Janeiro. Mon rêve, c'était de voir le plus de Brésil possible, mais c'était pas possible, il fallait avoir beaucoup d'argent. Alors, j'ai vu des morceaux de Brésil, c'est ainsi que j'étais à Goiânia, dans l'état de Goiás, une petite ville tout à fait à l'intérieur, où j'ai découvert encore le Brésil de l'Ouest, non loin de l'endroit où on a construit Brasilia, qui n'existait pas encore. Alors là, j'ai découvert, si vous voulez, la forêt vierge. J'ai eu peur aussi, parce qu'il y a quelque chose d'effrayant dans la forêt brésilienne, non par le fait qu'il y a des bêtes et qu'il y a toutes sortes de dangers qui guettent l'homme, mais par la somptuosité même de la végétation. On voit des arbres qu'on ne peut pas nommer, on est en présence d'une sorte de genèse, n'est-ce pas. Et l'autre jour, je me suis amusé à énumérer justement cette espèce de genèse du Brésil dont je vous parlais. Et déjà à l'époque, j'avais appris qu'au Brésil, il y a 200 sortes de serpents, 3000 espèces de plantes, 800 essences d'arbres, 1800 espèces de poissons, 21 000 km de voies d'eau ouvertes. C'est-à-dire que le Brésil est à peine sorti de l'histoire, n'est-ce pas? Et que au Brésil, on prend le pouls de ce qu'a dû être la préhistoire aussi. Mais en même temps, on a une ville comme São Paulo. Et j'étais dans l'Amazonie récemment, n'est-ce pas? Manaus. Là encore, j'ai vu toute la force des fleuves, parce que le Brésil est un pays aussi, on ne peut pas en parler sans parler de l'eau. C'est un pays invertébré où il n'y a pas de, comme les pays de la Cordillère, où il n'y a pas d'épines dorsales, de grandes montagnes. C'est un pays qui est structuré par les fleuves, par l'eau. J'ai pu me rendre compte surtout en voyant le système d'eau, quelque chose de prodigieux qui existe dans l'Amazonie. Outre le grand fleuve lui-même, l'Amazone, il y a des confluents de l'Amazone qui sont des fleuves aussi grands que l'Amazone, et puis des Itarapés qui sont tout un système capillaire de petits fleuves, mais chaque petit fleuve est plus grand que la Seine ou le Rhin, hein, qui structure cet ensemble et qui forme un monde prodigieux qui est comme la réserve hydraulique et hydroélectrique, naturellement, de l'humanité. Et de là, nous avons été à Itaipu, sur le Paraná. On construit le plus grand barrage du monde. Je crois que c'est la cathédrale des temps modernes. Hein. On reste absolument ébahi devant le côté monumental de ce barrage. Donc, c'est ce contraste qu'il y a d'un côté entre les archaïsmes quand même qui existent au Brésil, parce qu'il y a encore beaucoup de gens, entre autres les Indiens, n'est-ce pas, qui forment des millions de personnes qui ne sont pas sorties de la préhistoire. Et de notre côté, on a le Brésil du satellite, le Brésil de la bombe au cobalt, le Brésil des ordinateurs, le Brésil du tam-tam, de notre côté, des religions. Ça m'avait frappé aussi parce que je connaissais des religions autochtones de l'Amérique, entre autres le vaudou que je connaissais du dedans, étant haïtien, n'est-ce pas? Mais au Brésil, ça prend des proportions énormes. Quand on voit un système religieux comme le vaudou, on pense que c'est compliqué. Mais pour peu qu'on étudie le système religieux du candomblé ou de la macumba, des systèmes religieux du Brésil, on est en présence de massifs religieux extraordinaires et qui est d'une très vivant, qui s'édifie tous les jours. C'est un monde religieux ouvert où les dieux naissent encore, ou peut-être au moment où je parle, à travers tout le pays, où on est en présence du plus grand syncrétisme religieux du XXe siècle. Je ne crois pas qu'il existe au monde quelque part où la religion a des racines aussi vivaces, où tous les courants se retrouvent dans une religiosité populaire extraordinaire, n'est-ce pas, où à la fois il y a les rites africains, il y a le catholicisme émotif en lui-même des Brésiliens, catholicisme émotionnel, hein, et plus le spiritisme. Hein. Il y a ce qu'on appelle, il y a un grand courant qu'on appelle le spiritisme d'Ubanda, qui est lié avec les croyances africaines et toutes sortes d'autres croyances apportées par des messies du cru, par des prophètes qui apparaissent dans le nord brésilien, comme les films de cinéma nouveau brésilien l'ont montré, n'est-ce pas? Donc c'est un pays où il se passe des choses extraordinaires à la mesure de l'écologie, à la mesure des fleuves, des arbres, des bêtes et des gens eux-mêmes, parce que les Brésiliens sont des gens hors du commun à tous les points de vue. On n'a qu'à les voir dans des circonstances exceptionnelles comme le carnaval ou quand il y a des événements qui se produisent au Brésil où les Brésiliens donnent la mesure de ce qu'ils peuvent être, n'est-ce pas? On voit que c'est un pays singulier. Donc c'était pour moi une chance. Et je pense que j'en ai eu deux sur ce continent, n'est-ce pas, deux rencontres qui ont été exceptionnelles dans ma vie. C'est ma rencontre avec le Brésil et avec Cuba, n'est-ce pas, parce que ce sont deux, je dis que souvent le Brésil c'est une sorte de Cuba prodigieux, énorme, n'est-ce pas, parce que c'est la Caraïbe qu'on retrouve et sur un plan continental. Donc c'est une sorte d'immense Caraïbe avec, parce qu'il y a eu la double influence européenne et africaine, et c'est dans cette direction peut-être qu'on aurait voulu si on avait autant de terres, autant de fleuves, autant d'arbres, nous autres en Haïti et à Cuba, n'est-ce pas? Rarement j'ai vu pleuvoir avec une force tellurique comme à São Paulo et à Rio de Janeiro. C'est quelque chose d'exceptionnel. On ne peut pas sortir du tout, la vie est bloquée. Et même si on a un parapluie, ça ne suffit pas. Et c'est le ciel entier qui tombe en eau sur la tête des gens comme un déluge, n'est-ce pas? Et c'est une pluie qui peut unir brusquement les gens, comme peut les provoquer aussi dans des attitudes d'agressivité extraordinaires, j'imagine.
Oui, ce n'est pas innocemment connu de Pesce que dans votre premier texte sur le Brésil, on trouve d'un côté l'aspect exagéré de la nature avec la pluie et de l'autre côté l'érotisme aussi, qui est quand même très présent au Brésil.
Oui, je pense que ce sont deux composantes en effet de la sensibilité même du Brésil, la force tellurique, cosmique, n'est-ce pas, et l'érotisme qu'on peut capter à la fois dans les manifestations religieuses, et, bon, enfin, c'est connu l'espèce d'affinité qu'il y a entre la religion et l'état d'extase, l'érotisme, le plaisir lui-même. Donc, s'il y a un endroit privilégié pour que cet aspect solaire éclate, c'est bien le Brésil. Je l'ai vu en vivant deux carnavals de suite. Je dis bien vivant, parce que je n'étais pas un spectateur dans ce carnaval. Et je crois que c'est un monde même inexploré, parce que, bon, il y a l'approche de Jorge Amado, mais Amado insiste beaucoup sur l'aspect picaresque des relations entre hommes et la femme. Il y a une sensualité, mais elle reste quand même dans la tradition du roman picaresque. Mais je crois qu'il y a une autre possibilité. Je ne connais pas à fond la littérature brésilienne pour savoir si ça a été approfondi par des poètes ou des romanciers brésiliens. Actuellement, on me dira tout de suite qu'il y a les poèmes de Vinicius de Moraes. Mais Vinicius de Moraes est un poète, on ne peut pas dire érotique, c'est un poète de l'amour par excellence, qui a chanté la femme brésilienne, la femme tout court, avec une grande force. Il y a ces célèbres recettes pour identifier une vraie femme qui représente un classique du genre. Je crois que c'est un classique du genre pour n'importe quel pays et n'importe quel temps. Mais moi, je pense à un érotisme secret. Pour ça, je ne peux pas dire que j'ai une expérience suffisante. Mais le peu que j'ai pu vivre dans cette direction, n'est-ce pas, me laisse croire qu'il s'agit d'un continent. À l'intérieur d'un autre continent, n'est-ce pas, qu'il dise que c'est un autre Brésil dans le Brésil. Si on veut parler d'érotisme, rien qu'à voir comment les gens dansent, pas seulement au carnaval, n'importe quand, n'importe où, comme vous l'avez vu l'autre soir, quand les gens se sont mis à danser, on peut imaginer les relations qui doivent se nouer entre les hommes et les femmes dans l'intimité de leur vie personnelle.
L'érotisme au Brésil n'a rien à voir avec une vision, si vous voulez, de facilité lascive ou même de pornographie. Ça n'aboutit pas toujours dans la société à la facilité de faire l'amour. Les gens font l'amour ici autant qu'ailleurs, mais les lois sociales, les règles sociales étaient encore aussi rigides ici qu'ailleurs dans la haute ou même dans la classe moyenne. Ce qu'il y avait, c'était une attitude érotique par rapport au monde. Les gens, quand ils faisaient l'amour, ils trouvaient que ce n'était pas coupable, même quand que ça ne suivait pas les lois légales, si vous voulez, mais que c'était beau, c'était bon et beau. Et bon et bonito, comme on dit.
Para que mentir, se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Para que? Para que mentir? Se não há necessidade de me trair, pra que mentir? Se tu ainda não tens a malícia de toda mulher, pra que se eu sei que gostas de outro que te diz que não te quer?
Il y a toujours un moyen au Brésil de contourner l'obstacle. C'est un peuple à la fois doux, rusé, habile et qui pour lui, ce qui compte, c'est de trouver toujours le petit moment de bonheur et d'érotisme qui est possible, qui est toujours possible. Même dans la pire misère, ça a l'air d'une banalité et presque terrible de le dire. Quand j'ai visité un favela, les bidonvilles les plus atroces de Brésil, enfin, à l'époque c'était encore pire que maintenant. Maintenant on ne les voit pas autant au centre de Rio qu'on le voyait il y a 20 ans. c'était là qu'on préparait le carnaval, que les gens faisaient les écoles de samba, qui passaient les soirées à danser. Il y avait une libération de ça, mais il n'y avait pas que ça qui m'a frappé à l'époque. Dans cette misère atroce, il y avait un peu partout des oiseaux et des fleurs. Des fleurs qu'on mettait en bouquet. Et je ne veux pas faire de romantisme avec la misère. La misère était là et la misère est très grande et crée parfois de la violence. Mais il y a toujours chez les Brésiliens, à cause du climat et à cause de la culture, une volonté continuelle de saisir le bonheur, même dans les pires moments. Et c'est pour ça, vous voyez, vous allez écouter une chanson je suis allé l'autre soir écouter Maria Bethânia, une grande chanteuse. Ces chansons sont tristes parce qu'il y a un fond de tristesse dans ce bonheur. Et le mot brésilien, on le dit, on le redit, c'est saudade, qui est presque intraduisible, qui est à la fois nostalgie, tristesse, mais qui est aussi éclatement de bonheur. Ce n'est pas une tristesse acceptée et assumée, c'est une tristesse qui crée une volonté de bonheur. Alors, vous voyez cette chanson, vous voyez cette chanteuse et vous voyez les gens qui sont pris de saudade. Et soudain, ce fond de tristesse cède le pas vers un éclatement de joie et de bonheur. C'est candide, enfantin, mais c'est violent. Et c'est cela qui fait que ce pays, dans toute cette contradiction, est parmi les plus attachants. C'est un peuple doux, mais un peuple qui peut être aussi très violent. C'est un peuple triste, mais qui est un peuple de grande joie. Et je pense que c'est là où on voit la vie qui triomphe, malgré tout.
Et j'ai le sentiment aussi, Naïm Kadat, que vous retrouvez un peu au Brésil le monde oriental de votre enfance.
Oui, je dois dire que cette sensualité que j'ai trouvée au Brésil, c'est la sensualité orientale arabe qui était brimée par les lois de la société, des lois qui étaient trop strictes dans cette société-là. Et j'ai eu l'impression que cette société arabe dans laquelle j'ai vécu, où on ne voyait pas la femme, où la femme était enfermée sous le voile ou dans la maison, où il y avait une acceptation de la sensualité, mais il n'y avait pas une pratique de la sensualité, j'ai vu que cette même sensualité, soudain, existait dans un pays, mais elle était permise. Les femmes étaient là partout, dans la rue, partout, partout, pauvres ou riches, jeunes ou vieilles. Je ne crois pas qu'elles sont plus belles qu'ailleurs. Quand on les détaille, elles ne le sont pas. Mais il y a une acceptation chez la femme de son corps, parce qu'il y a le regard de l'homme qui est un regard qui n'est pas avide, comme dans le Moyen-Orient, qui est un regard de désir, de désir dans le sens le plus complet du terme. Et quand l'homme sent le désir dans la femme et la femme sent le désir dans l'homme, il y a cette sensualité libérée.
Je crois qu'il y a une américanité qui s'étend depuis le Canada jusqu'à l'Argentine, hein, qui est absolument différente quant à sa structure de l'Europe et de l'Afrique. Que quand l'Europe et l'Afrique se sont rencontrées en Amérique, il n'y a pas eu, comme certains anthropologues ont voulu le faire croire, une espèce de juxtaposition de cultures, mais qu'il y a eu une espèce que Bastide appelle une hétérofécondation, une fécondation réciproque. C'est-à-dire que les Africains se sont mis à africaniser les Européens et les Européens se sont mis à européaniser les Africains. Et il n'en est pas résulté de cette interfécondation une Europe d'outre-mer ou une Afrique de l'Amérique. Il en est résulté un autre monde. Et je crois que c'est là que commence le nouveau monde. Non pas dans la découverte, parce que je suis d'accord avec Léopold Dozé, hein, que la découverte n'a pas été une découverte, comme on a dit, sinon un processus d'occultation même, n'est-ce pas, de l'Amérique. On a empêché l'Amérique de se révéler en disant qu'on a découvert. D'abord, il existait des peuples, des civilisations, des cultures. On n'a pas attendu Christophe Colomb pour qu'une créativité se soit constituée sur ce continent, parce qu'il y avait des hommes, n'est-ce pas. Mais la prétendue découverte a tout brouillé, n'est-ce pas, et la vraie découverte a commencé beaucoup plus tard, quand les hommes de ce continent, du nord jusqu'au sud, se sont rendus compte qu'il y a eu une mutation d'identité dans leurs conditions humaines. C'est-à-dire qu'ils sont devenus autres qu'ils étaient en Europe et en Afrique. Ils sont devenus, comme disait le père Charlevoix déjà, il disait que les Canadiens, ce sont des créoles du nord de l'Amérique, n'est-ce pas ? Ils appellent les Canadiens ou des créoles. Et cette créolité, je crois que c'est l'un des traits essentiels de l'Amérique. Il y a une créolité inventive, radicale, fondamentale de toute l'Amérique. Pas seulement du Canada ou de l'Amérique du Nord aussi. Une créolité d'origine anglaise, n'est-ce pas, et africaine. Une créolité antillaise, une créolité de l'Amérique du Sud. Cette créolisation est l'un des phénomènes les plus originaux de l'histoire de l'humanité depuis les 3 ou 4 derniers siècles. Et les anthropologues ont occulté ce fait. Ils ont d'abord voulu laisser croire que les Africains, parce qu'ils étaient dotés d'on ne sait quelle mentalité immuable, ce qu'on appelait une mentalité africaine, et pour ne pas dire une mentalité primitive comme Lévi-Brulle, étaient incapables de faire des apports de civilisation, de jouer un rôle civilisateur sur ce continent. C'est pour ça que Herskovitz lui-même a parlé de réinterprétation, qu'ils ont réinterprété l'Europe. Il n'y a pas eu réinterprétation dans aucun sens, sinon que les Africains, dans les conditions écologiques, économiques, et politiques et sociales de l'Amérique, ont créé, avec les Européens, n'est-ce pas, d'autres sociétés. C'est la thèse de Dax Ribeiro, d'ailleurs, quand il a une thèse sur la formation des civilisations. Il est né sur ce continent d'autres civilisations, différentes de la civilisation gréco-latine, de la civilisation hindoue, de la civilisation japonaise, n'est-ce pas, des civilisations sui generis qui demandent des études précises, n'est-ce pas.
C'était la matinée des autres. La révélation du Brésil. Une émission proposée par Olivier Germain Thomas et André Mathieu. Avec la participation de Gisèle Cossard, maire de Saint, et de Naïm Katan et René Depestre, écrivains. Conseillère artistique, Mara Guimaraes. Enregistrements originaux de Candomblé. Mixage, Monique Pratt.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 mars 1982. Elle est à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.